Qu'est-ce que vous auriez besoin de savoir pour que votre vie impacte le monde ? Quelque chose d'important qui vous demanderait une volonté de vivre et de mourir pour elle. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a cette importance ? Les personnes qui ont une influence durable dans le monde ne sont pas celles qui maîtrisent beaucoup de choses, mais celles qui ont été maîtrisées par une grande chose. Si vous voulez que votre vie compte, si vous voulez que les ondes de la pierre que vous jetez à la surface de l'eau traversent l'eau et aillent jusqu'au bout et aient des résonances dans l'éternité, il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau de connaissance très élevé. Il n'est pas nécessaire, mes amis, d'être beau ou riche. Il n'est pas nécessaire de venir d'une bonne famille ou d'une école réputée. Il suffit de connaître quelque chose grande, majestueux, immuable, qui ne change pas, évident, simple, glorieux, et de se laisser enflammer par ces choses. Et vous voyez de quoi je veux parler. Je vous invite à regarder dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, verset 14, un verset qui, à une semaine de Pâques, a son importance. Je vais lire dans la version Parole vivante. Donc si ça, ceux qui ont d'autres traductions, rassurez-vous, c'est toujours une version inspirée. Galates, dans le Nouveau Testament, 6, 14. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Je ne sais pas et je ne crois pas que tout le monde dans l'assistance ait envie d'avoir un impact pour le monde. Peu importe, dites-vous, si vous avez un impact durable en faisant de grandes choses. Majorité d'entre vous et parfois d'entre nous, nous voulons simplement être aimés. Si vous pouviez seulement, dites-vous, avoir un bon travail, pour les hommes avoir une gentille femme, pour les femmes un gentil mari, avoir des enfants, quelques bons amis, une retraite agréable, une mort assez rapide pour pas avoir de souffrance, mais surtout ne pas aller en enfer. Ah, si on avait la recette, si on pouvait avoir tout ça sans Dieu. Mes amis, ça serait une tragédie. Ça serait une tragédie. Parce que là, on serait sûr d'aller en enfer. Avez-vous déjà entendu parler de Ruby Eliasson et de Laura Edwards? Elles sont décédées il y a maintenant 13 ans. Elles ont passé bien des années au Cameroun et en Inde. C'était deux médecins en chirurgie qui avaient toutes les deux plus de 80 ans. Elles avaient été célibataires toute leur vie et elles avaient donné toute leur énergie, toute leur vie, toute leur concentration pour une seule grande chose, faire connaître Jésus-Christ parmi les populations non atteintes. Laura était veuve, ne s'était pas remariée, c'est pour ça que je l'ai mis célibataire. Et lorsqu'elles ont fait ce dernier voyage au Cameroun, elles étaient venues pour visiter les frères et sœurs, visiter les hôpitaux. Mais sur une des routes où elles voyageaient, alors qu'il y avait 6 personnes à bord, les freins ont lâché. La voiture a décollé dans un virage, s'est enroulée autour d'un arbre, et sur les 6 personnes, 2 seules sont mortes. Les 2 qui étaient devant, qui étaient ces 2 personnes. J'ai lu sur le rapport de la Convention baptiste du Cameroun avec lequel elle collaborait, que c'était une tragédie. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une tragédie, mais que c'est une gloire. De partir dans l'anonymat, après avoir servi pendant plus de 50 ans, d'avoir servi son Dieu, d'avoir annoncé la parole de Dieu. Nous ne sommes pas sur cette terre pour être éternels, mes amis, mais pour servir Dieu. Et elles étaient parties de la même façon qu'elles servaient, dignement, droitement, sans bruit. Voilà ce que dit Ésaïe, chapitre 26, verset 8. Ésaïe, c'est le prophète. Chapitre 26, Ancien Testament, verset 8. « Oui, sur le chemin que tu commandes de suivre, nous comptons sur toi, Seigneur. Prononcer ton nom, faire appel à toi, voilà ce que je désire. » C'était leur cœur. Et elles avaient donné leur vie pour ça, et elles étaient prêtes à mourir. Il ne s'agit pas simplement d'un corps, mais d'une âme. Il ne s'agit pas simplement d'une âme, mais d'une âme animée. Vous vous rappelez dans Genèse 2, tant que Dieu n'a pas donné son esprit, l'âme n'est pas animée. Animée par une passion et un désir. Il ne s'agit pas seulement d'un désir d'être apprécié, d'avoir un bon travail. Il s'agit du désir de quelque chose d'infiniment plus grand, d'infiniment plus beau, d'une valeur infiniment plus grande. Prononcer ton nom, faire appel à toi, voilà ce que je désire. Est-ce que nous, chrétiens du 21e siècle, nous, chrétiens dans le monde occidental, notre désir premier, initial, notre moteur, c'est de prononcer le nom de Dieu ? C'est de faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai hâte de vivre. La déclaration de la mission de ma vie, mais j'espère que c'est de votre vie. Nous existons, j'existe, pour répandre une passion pour la suprématie de Dieu en toutes choses. Pour la joie, pour notre joie, mais pour la joie de tous les peuples. Notre impact ne doit pas se concentrer à Vigneux-sur-Seine, mes amis, à Crône, à Soisy-sur-Seine ou École, je me trompe à chaque fois, à Plessis-Pâté. Mais nous avons été mis dans le monde pour avoir un impact dans le monde. Quoi que vous fassiez, nous avons besoin de trouver ce qui nous passionne le plus. Trouver un moyen de dire et de vivre notre foi. Si on veut arriver à avoir un impact durable, alors nous regardons à ceux qui nous ont précédés. Et une personne qui nous a précédés et qui avait un impact, c'est celui qui a écrit l'Épître aux Galates. Voilà ce qu'il a dit, c'est l'apôtre Paul dans Actes 20, verset 24. « Je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie. » Avec joie. Ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur rendent témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Rendre témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la grâce. Une seule chose pour Paul avait une importance, courir et terminer la course. Il dit aux Philippiens dans le chapitre 3, versets 7 et 8, si vous voulez vérifier avec moi. Philippiens 3, Nouveau Testament. Versets 7 et 8. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Comment Dieu peut-il nous utiliser pour éveiller en nous une passion unique pour une seule grande réalité qui fera tomber nos chaînes, qui nous libérera de nos rêves de confort sur cette terre. Galates 6,14, ce verset que nous avons lu, « Quant à moi, certes, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix. » Nous sommes dans la semaine où on va parler de la croix. Dimanche prochain, on parlera de la résurrection. On peut dire de manière positive ce que Paul dit. « Glorifiez-vous uniquement de la croix de Jésus-Christ. » Une seule idée, un seul but, une seule passion. Glorifiez-vous en une seule croix. Jubilez. Vous savez, quand on jubile, le mot jubilé, c'est vraiment s'exclamer tellement heureux. Est-ce que la croix de Christ nous rend tellement heureux? Est-ce que le fait de lui appartenir nous rend triste, nous fait regarder les obstacles comme insurmontables? Ou au contraire, de dire, à cette croix, Dieu a payé mon prix. À cette croix, Dieu m'a libéré. À cette croix, j'ai pu échapper, enfin, à ce qui me retenait captif. Je m'en réjouis. Et Paul dit, je m'en réjouirai toujours. Ne jubilez que de la croix de Christ. Ne réjouissez-vous que de la croix de Christ, que votre seule passion, votre seule gloire. Il y a une chose que nous devons aimer avant tout. La seule chose que nous devons chérir. La chose dans laquelle nous devons jubiler. La croix de Christ. Nous, les chrétiens, dans cette période de l'année, nous avons l'opportunité unique sur le calendrier païen, où chaque jour égrène un faux dieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce sont des faux dieux romains. Et là, dans le calendrier, il y a la célébration de la Pâque. Il y a l'histoire de la passion. Moi, j'espère que notre passion, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas le plus beau jour de notre vie. On aimerait dire que c'est le jour de notre mariage. N'est-ce pas? Pour ne pas avoir de problème en rentrant à la maison. Mais n'est-ce pas le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ? Le jour où j'ai compris que moi, pécheur, moi, condamné à mort, quelqu'un avait payé le prix. Quelqu'un dit, tu peux être libre. Quelqu'un m'a imposé sa grâce, me l'a donné, me l'a offert, sans que je pèse rien, sans que je donne rien. Moi, pécheur, repentant, même pas repentant encore. Ceci vous choque? De dire que notre unique gloire, c'est de se glorifier dans la croix de Jésus. Parce que dans ce cas-là, nous n'y pouvons rien. Nous n'y pouvons rien. Ce n'est pas nous qui avons demandé cette croix. C'est nous qui l'avons provoquée. C'est à cause de nous que la croix a été dressée. C'est à cause de nous qu'on a rentré des clous dans les mains et dans les pieds de Jésus. Glorifions-nous uniquement dans la chaise électrique. Glorifions-nous uniquement dans la chambre à gaz. Glorifions-nous uniquement dans l'injection mortelle. Que votre seule gloire, votre seule joie, votre seule jubilation soit le lynchage. Dites, ça y est, le pasteur, il n'y va pas bien. Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun mode d'exécution, mes amis, de tous les temps, qui a été inventé n'a été aussi cruel, où la personne mettait tellement de temps à mourir, souffrait tellement. On n'aurait pas pu regarder, mes amis, sans crier, sans s'arracher les cheveux. Et pire, si on avait compris que c'était pour nous. Ceci est choquant dans la bouche de l'apôtre Paul. Il déclare que cela doit être la seule chose dont on peut se glorifier. Non seulement la seule chose dans laquelle nous pouvons nous impliquer, mais la seule chose dans laquelle nous pouvons nous glorifier. La seule joie. Que veut-il dire ? Pas d'autre joie que la croix ? Romains chapitre 5, verset 22. Romains chapitre 5, verset 22. Nous nous glorifions, Romains 5, tout le monde là, nous nous glorifions, on va le lire ensemble, tiens. On va faire un petit exercice ce matin, comme ça vous participerez au culte, ça vous paraîtra moins long. Romains chapitre 5, verset 2. C'est pas ce que j'avais dit ? J'avais dit quoi ? C'est 2. 2. Romains 5, 2. Romains 5, 2. Je suis fatigué, désolé. Excusez-moi. Romains 5, 2, tout le monde là ? On va essayer de lire la même chose. Nous nous glorifions dans l'espérance de quoi ? De la gloire de Dieu. C'est pas ce que vous avez ? Et il est raccourci le verset. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Au verset 3, nous nous glorifions même dans les afflictions, tribulations, sachant que la tribulation, l'affliction produit la persévérance. Ah. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. On le lit aussi ensemble. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il ne se glorifie pas d'être grand, d'être fort, d'être écouté, d'avoir un ministère extraordinaire, de voir des églises poindre. Non, il se glorifie de quoi ? De parce qu'il est faible, il peut compter sur Christ. De parce qu'il est faible, parce qu'il fait des fautes, parce qu'il tombe, parce qu'il est incapable de remplir le défi que Dieu lui met devant. L'espérance de la gloire de Dieu, les tribulations produisent de la persévérance, la puissance de Christ repose sur moi quand je suis faible, pas quand je suis puissant. Premier épître aux Thessaloniciens, verset 19, chapitre 2, je recommence. 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Voilà. Il faut que je réduise le débit. 1 Thessaloniciens, c'est... On travaille dans les épîtres que Paul a écrits. Tout le monde là ? Qui donc est en effet notre espérance ? Notre joie, notre couronne de gloire, n'est-ce pas ? Vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, c'est quoi la fin ? Lors de sa venue. Mes amis, on se prépare tous ensemble à un magnifique voyage, à une magnifique rencontre. Et là, mes amis, tout le monde la fera. Ceux qui auront le ticket. Nous passerons tous. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont mis leur espérance, ceux qui se glorifient dans l'espérance de la gloire lors du retour de Christ. On en a parlé vendredi aussi. Un quart des versets bibliques parlent de cela. Si Paul peut se glorifier de toutes ces choses, il affirme « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix du Seigneur Jésus ». Et vous avez vu que tout ce qu'il a dit qu'il se glorifiait dépendait de quoi ? De la croix ! De la croix, il n'avait aucun mérite. Il était un terroriste. Il était l'homme le plus recherché de la terre connue. Et il est devenu le plus grand prédicateur. Qu'est-ce que cela signifie ? Jubiler dans une chose et dire qu'une chose nous fait jubiler, nous encourage. Il veut dire que tous les chrétiens, toute occasion de se réjouir, devrait aussi être une glorification de la croix. Toute exultation en toute autre chose devrait être une exultation de la croix. Parce que c'est une grâce. Je peux rendre grâce à Dieu parce que je vis à cause de Jésus. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai un emploi grâce à Jésus. Je peux rendre grâce à Dieu que je respire grâce à Jésus. Parce qu'il est venu me sauver sur la croix. C'est l'événement que le monde ne peut pas enlever. Le monde que les historiens ont écrit. Nous sommes en 2013, après Jésus. Après Jésus. Et le monde nie qu'il ait existé. Ils renoncent à leur calendrier. Si vous exultez dans la tribulation, parce que la tribulation travaille l'espérance, vous devriez exulter la croix de Christ. Si vous exultez dans votre faiblesse, dans notre faiblesse, ou dans le peuple de Dieu, alors nous pouvons reconnaître la croix du Christ. Pour les pécheurs rachetés, toute bonne chose, toute chose mauvaise, ou qui nous semble mauvaise, des choses que Dieu change finalement en bien, ont été obtenues par la croix de Jésus-Christ. En dehors de la mort de Christ, les pécheurs n'obtiennent que le jugement. En dehors de la croix de Christ, il n'y a que condamnation. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que si on pouvait tout obtenir sans Christ, c'est une tragédie. Quand on meurt en Christ, c'est une gloire. Tout ce que vous appréciez en Christ en tant que chrétien, en tant que personne mettant notre confiance en Christ, vient de la mort de Christ. Parce qu'il a accepté de venir mourir à notre place. Lorsque vous vous réjouissez en toute chose, vous vous réjouissez donc dans la croix où toutes vos bénédictions ont été payées au prix de la mort de Jésus. Waouh ! Ça fait du bien de se rappeler de temps en temps que quelqu'un d'autre a payé le prix pour que je sois heureux. Pour que je puisse avoir mon assurance vie. Vous savez, souvent, j'en connais un dans la salle qui vend des assurances vie, qui essaye de demander à des gens de placer. Mais quel plus beau placement en Jésus-Christ. Quel plus beau placement d'avoir cette assurance vie éternelle. Pas de l'argent qu'on va donner à ma veuve, parce qu'elle me survivra. Vous savez, je visite beaucoup les maisons de retraite. Et ce qui est intéressant dans les maisons de retraite, il y en a qui les visitent, les maisons de retraite. Les dames qui y travaillent. Regardez les noms sur les portes. C'est pas marqué, monsieur. 90% des gens là, c'est madame. Dieu, dans la Bible, c'est marqué que ce sont des êtres faibles, mais elles sont fortes, elles subsistent à nous. Ou alors, si j'étais négatif, je dirais elles nous font mourir, hein, mais... Je veux rentrer sain et sauf chez moi. L'une des raisons pour laquelle nous manquons parfois le but, nous ne reconnaissons pas la croix, c'est que nous n'avons pas réalisé qu'absolument tout, toutes les bonnes choses, les mauvaises choses que Christ change, sont pour le bien de ses enfants. Romains chapitre 8. Me dit, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas? C'est difficile à accepter. On a étudié la deuxième épître de Pierre hier avec deux personnes de l'Église. Et ce qui est extraordinaire dans la deuxième épître de Pierre, c'est que quand Dieu met devant nous un obstacle, il dit, c'est pour ton bien cet obstacle. Nous sommes doublement indigne, ça ne nous revient pas de droit. Nous sommes des êtres créés et notre Créateur n'avait pas l'obligation de nous donner quoi que ce soit. Vous savez ça? Il y en a qui maintiennent que quand Dieu a créé la terre, il a oublié qu'il avait créé la terre. Et qu'il s'en est souvenu, quelque temps. J'avais fabriqué un truc, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, si Pierre a déjà entendu cette théorie, certainement. Dieu, quand il a créé la terre, il a voulu créer un homme, une femme, à sa ressemblance. Un homme et une femme avec qui il pourrait dialoguer, qu'il pourrait aimer, qu'il pourrait chérir. Mais l'homme et la femme, rapidement, ont voulu leur indépendance. Mais c'était une tragédie, et c'est une tragédie pour nous aujourd'hui. Mais heureusement, Dieu a pallié à cette tragédie. Ni la vie, ni la santé, ni toute autre chose, Dieu n'a d'obligation de nous le donner. Il donne, il prend, sans nous faire aucune injustice. Vous vous rappelez, monsieur Job? Je sais que tu peux tout. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, au travers de l'épreuve, mon œil t'a vu. Nous sommes des créatures qui n'ont rien à réclamer à leur Créateur, car nous sommes encore des pécheurs pardonnés. Nous sommes indignes de partager sa gloire. Nous l'avons ignoré, nous lui avons désobéi, nous avons échoué à l'aimer, à lui faire confiance. La colère de sa justice est déclenchée contre nous. Son jugement est la seule chose que nous méritons. Chacune de nos inspirations, chaque battement de notre cœur, chaque jour où le soleil se lève, parce qu'il se lève tous les jours, vous le savez ça, chaque fois que nous pouvons utiliser nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre, notre bouche pour parler, nos jambes pour marcher, est un cadeau gratuit et non mérité. Dieu ne nous le doit pas. Qui de nous a acheté ces cadeaux? Jésus-Christ. Comment les a-t-il achetés? Par son sang. Chaque bénédiction est destinée à glorifier la croix de Christ. Ou bien, pour dire les choses autrement, chaque chose est destinée à mettre en valeur Christ dans notre vie. Pas nous. Même si nous ne le méritons pas, la grâce toute puissante de Dieu transforme toute chose pour notre bien. Vous rappelez, Monsieur Joseph, quand ses frères se sont trouvés devant lui et qu'il se disait, ça y est, c'est bon, on est dans ses mains, on va tous mourir. Quelle a été sa réponse? Dieu a changé le mal en bien. Dieu a changé le mal en bien. Vous croyez que Joseph n'avait pas l'intention à un moment de mettre les doigts sur le cou de ses frères, de les faire disparaître, leur dire maintenant le Tout-Puissant c'est qui? Vous étiez bien fort quand vous étiez en groupe et maintenant? Et sa réponse est remplie de grâce, n'est-ce pas? Vous m'avez envoyé là pour que je sauve ce pays. D'où viennent toutes ces bontés? Si vous êtes un pécheur racheté, croyant en Jésus-Christ, elles viennent de la croix uniquement. En dehors de la croix, il n'y a que du jugement. Il ne peut y avoir de la patience. Dieu est patient. Dieu est miséricordieux. Mais si nous la repoussons, cette miséricorde, alors elle intensifie le jugement. Chaque cadeau que nous recevons est taché du sang de Christ. C'est à cause de la croix que nous sommes dans la gloire avec lui. Malheur à moi si j'exulte, si je glorifie autre chose que la croix. Une autre façon de dire cela est que le dessein de la croix est la gloire de Christ. Le but de Dieu dans la croix est que Christ soit honoré dans nos vies. Lorsque Paul dit « Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre », il dit que la volonté de Dieu est que la croix soit toujours magnifiée dans sa vie. Notre joie, notre louange reviennent à Christ. Ainsi, notre reconnaissance et l'honneur pour toutes les bonnes choses, c'est à cause de la croix. Question. Si c'est le but de Dieu dans la mort de Christ, que Christ crucifié soit honoré, glorifié en toutes choses, alors, comment Christ peut-il recevoir la gloire que lui mérite? Il est primordial que les enfants, les jeunes, les adultes, reçoivent l'enseignement pour ça. Ou pour dire les choses autrement, que nous nous tournions tous vers la source d'éducation, d'enseignement de la part de celui qui a payé pour moi. Et que toutes ces choses nous ramènent au pied de la croix. Verset 14 de notre texte de ce matin. « Quant à moi, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix du Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Deuxième point. Nous glorifions la croix de Christ lorsque nous sommes sur la croix. Sur la croix. Je vais m'expliquer. Est-ce que le verset 14 dit « Le monde a été crucifié pour moi » ? Non. Le texte dit « J'ai été crucifié pour le monde. » Le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Regardez chapitre 2 de l'Épître aux Galates. Au verset 20. Et là, on va faire un petit exercice grammatical. Je ne vais pas le faire très longtemps. Mais j'aimerais faire un petit exercice de grammaire avec vous. Qu'est-ce que vous avez dans vos versions? Galates 2, 20. On va le lire ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Oui, mais avant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, oui. Mais cette première partie de verset, j'ai été, qui a-je été? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre? Je suis crucifié avec Christ. Parce que le temps ici, vous savez, quand on dit un acte passé, j'ai été, c'est un acte passé, c'est pas... Mais le texte original, il dit, je suis crucifié. Je le suis. Moi, la personne, le vieux moi, je suis crucifié avec Christ. Donc je suis mort. Et la suite du verset alors prend tout son sens. Parce que alors, et si je vis, alors ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis crucifié avec Christ. Vous comprenez l'idée du texte? On a traduit en français « j'ai été ». Parce que c'est le sens du texte. Mais le texte, il est toujours réel. Je suis mort. Je suis crucifié. J'ai été attaché. À cause de moi, Christ est mort. Et je suis là. Ça change le texte. Ça change un peu notre lecture et notre compréhension, non? Parce que dans ce cas-là, c'est plus cet acte passé. Vous savez, il y a des choses dans nos vies qui marquent. Et c'est souvent dans le passé. Mais ça ne change pas grand-chose dans notre réalité. Et quand on lit ce texte de Galates 2:20 et qu'on peut dire « Je suis crucifié avec Christ », ça veut dire alors que cette nouvelle vie, elle ne peut passer que dans la croix de Jésus-Christ, elle ne peut passer que dans la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Cette mort, pour nous tous, est devenue notre mort par l'unité. Ne suis-je pas vivant? Je me sens vivant. Eh bien, c'est là qu'on a besoin d'être enseigné. Seigneur, que veux-tu que je fasse avec cette nouvelle vie? J'ai eu par expérience de passer par cette vie nouvelle dans les années 60. Presque mort dans un accident de la route, dans un état comateux pendant 24 jours. Il y en a peut-être qui disent, tiens, ça explique. À partir à une nouvelle vie, réapprendre à manger, réapprendre à marcher, réapprendre à vivre. On n'a pas le même désir, on n'a pas les mêmes yeux. On apprécie les toutes petites choses. Les choses qui nous font que pendant des semaines sur notre lit d'hôpital, on n'a pas pu apprécier. Les choses qu'on nous a données contraints, sans choix. Alors on peut venir les palper. Et mes amis, c'est la qualité de vie que Dieu nous donne. Si nous sommes des hommes et des femmes qui sont crucifiés à Jésus-Christ et qui vivent en Jésus-Christ, alors j'espère qu'on devient des passionnés. Des hommes et des femmes qui aiment à saisir ce cadeau que Christ nous donne, même si dessus il y a des taches de sang. Et ces taches de sang, c'est les taches de vie. Dieu nous enseigne ce qui s'est produit pour lui, pour nous, afin que nous puissions nous connaître et connaître la façon par laquelle nous avons la vie. Quand on voit la souffrance d'une femme enceinte, la souffrance pour venir dans ce monde, certains veulent sortir trop vite, d'autres se disent « je suis bien au chaud, je ne vais pas sortir encore. Ici, je suis nourri. » Et quand on regarde la souffrance de Christ, alors on peut voir ce parallélisme, mes amis. Ou pour avoir la vie, il faut la souffrance. Avoir la vie, c'est pas, il y en a une sage-femme ici, hein, qui donne la vie à des enfants tous les jours. Et on peut voir combien Christ a souffert. Et combien, dans notre vie de tous les jours, on peut apprécier. Nous sommes morts en lui, nous sommes morts, mais en lui, nous sommes vivants. Le nouveau moi qui vit est le nouveau moi qui a la foi. La nouvelle création vit. Le croyant vit. Le vieil homme est mort. Mais il se débat le bougre. Il me rappelle. Oh, ça tu savais faire avant. Ça, oh, c'était, tu faisais très bien même avant. Allez, fais voir. C'est pas comme ça qu'il travaille le diable. Nous rappelle des images. J'ai une sœur qui avait partagé avec moi qu'elle voyait des images de choses qu'elle n'avait jamais fait de sa vie et que le diable venait lui rappeler, essayer de la convaincre la nuit qu'elle avait faite. Et le matin, elle se levait, elle disait « Mais j'ai rêvé ou j'ai fait ?» Le diable est fort, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Et lui, il nous tente. « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. » Voilà le lien que Dieu nous a donné. Dieu nous lie à son Fils par la foi. Et en faisant cela, il crée le lien nécessaire pour donner la vie. Avec le Fils de Dieu, afin que sa mort devienne votre mort et que sa vie devienne votre vie. Retournons à Galates 6,14. « Quant à moi, certes non, je ne me glorifie de rien d'autre que de la croix du Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ne vous glorifiez rien d'autre. » Est-ce que je peux maintenant me recentrer sur la croix? Réalisez que lorsque Christ est mort sur la croix, vous êtes mort aussi. Lorsque vous avez mis votre confiance en Christ, cette mort a pris effet à l'instant dans votre vie. Et lorsque vous avez mis votre confiance en lui, lorsque vous avez abandonné votre vie, alors votre mort au monde est affichée. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon message en disant, est-ce qu'on veut avoir un impact dans le monde? Parce que nous sommes morts à ce monde. Et nous sommes vivants en Christ. Lorsque vous mettez votre confiance en Christ, votre lien avec le monde est brisé. Ce monde, toutes les choses qu'on vous fait miroiter. Vous êtes un corps pour le monde et le monde est un corps pour vous. Vous êtes une nouvelle création. Le vieil homme est mort. Une nouvelle personne en vous est vivante. Ce n'est plus vous, c'est Christ. La nouvelle personne en vous, c'est l'homme de foi. Et la foi exulte, elle n'est pas dans ce monde, mais elle est sur la croix, à Golgotha. Le monde n'est plus mon trésor. Il n'est plus la source de ma vie. Il n'est plus ma satisfaction. Il n'est plus ma joie. Paul dit, ma joie, c'est Christ. Quand on pense à la mort de la croix, on va le célébrer vendredi. Cette longue agonie cette rébellion du monde. Ce monde qui voulait en finir une fois pour toutes avec Jésus-Christ. Jésus est bien vivant aujourd'hui. Le monde continue de mourir. Le monde va vers sa fin, mes amis. Mais nous allons vers la vie. Lorsque Christ paraîtra, alors votre vie paraîtra. Et tout ce qu'on peut imaginer dans notre tête, tout ce qu'on peut voir de beau, de grandiose, mes amis, on va voir des choses encore plus belles. Sommes-nous morts pour le monde ? Je peux l'être. Et j'espère l'être de plus en plus. Parce qu'être mort pour le monde ne signifie pas qu'il faut être mort dans le monde. Cela ne signifie plus et que le monde ne nous inspire pas d'émotion, qu'on ne prend pas plaisir. Mais il ne nous permet pas de glorifier ce monde, mais de comprendre que ce monde va disparaître et que Dieu est en train de nous préparer une place extraordinaire. Nous sommes pèlerins sur cette terre, de passage. On n'est pas là pour rester éternellement. Des fois, j'ai l'impression que nous, chrétiens, on met des murs antisismiques. On voudrait se mettre totalement à l'écart, être sûr, c'est bien là que tu veux que je sois. Et le Seigneur, il dit, non. Laisse tes valises, là. Je te prépare autre chose. Une autre place. Chaque plaisir légitime du monde devient une preuve de l'amour de Dieu, racheté par le sang. Et un moyen que nous avons de dire par nos bouches. Merci Seigneur pour ces choses. Nous sommes morts au paiement de l'assurance. Vie. Nous sommes morts au fait que nous pouvons payer le prix. C'est Christ qui a été crucifié et qui donne par grâce. Lorsque mon cœur remonte, le flot de la bénédiction jusqu'à la source de la croix, vous savez comme les poissons qui remontent le courant. Alors il atterrit au pied de la croix et dit « Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tout ce que je peux avoir dans ce monde, toi tu as payé le prix et c'est là que je veux abandonner mon péché. » La partie mondaine est morte. Maintenant la partie céleste prend la place. Et moi j'aimerais que nous devenions ces passionnés. Mon rêve, c'est que notre vie, à tous, dans notre métier, dans ce monde, soit une vie de passionné, qui montre aux autres, tiens, Christ est là. C'est pas le même. C'est pas la même. Le but de l'éducation, c'est de mettre en valeur la croix. Que Dieu nous donne de rêver, de planifier, de travailler, de donner, d'enseigner pour la gloire de Christ. Parce que oui, il est mort à la croix. Mais la Bible dit, c'est le message de la semaine prochaine, ça ne sera pas moi, il est ressuscité. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, quelle grâce! Quelle grâce nous venons encore de parcourir. Quelle grâce nous avons encore de contempler ton chemin de croix. La Bible nous dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Seigneur, tu nous demandes d'abandonner notre vieille vie, nos vieilles aspirations, nos vieilles tentations, nos vieilles façons de penser, nos raccourcis, nos a priori, afin que nous puissions découvrir la vie nouvelle en toi. Tu nous demandes sur ce chemin de croix de te demander pardon parce que c'est nous qui t'avons condamné. Nous devions être à ta place. Au lieu de ça, tu as accepté de mourir. Tu es venu sur terre avec pour mission de mourir à notre place. Et tu n'as pas reculé. Alors Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que chacun, chacune dans cette salle puisse prendre ce cadeau maculé de sang, maculé de ton sang. Mais le sang qui représente la vie, parce que sans sacrifice, il n'y a pas de vie. Et qu'il puisse découvrir cette vie nouvelle, là où il est. Qu'il puisse s'abandonner et naître de nouveau. Que ceux qui ont des doutes, ceux qui passent par des difficultés, nous prions souvent, puissent te voir, toi, et te glorifier, toi. Mais que nous puissions être à leur côté, pour que ces épreuves paraissent moins difficiles avec nous. Que nous puissions les soutenir par la prière, par les gestes. Seigneur, tu as souffert à notre place et tous ceux qui t'avaient suivi jusque-là t'ont abandonné. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles que toi, tu ne te venges pas. Et bien au contraire, tu nous offres la vie. Alors si ce matin, au travers de ce message, vous êtes dit, mais c'est peut-être ça qui me manque. C'est que Christ soit réellement dans ma vie. Que je prenne conscience que Christ est mort à ma place. Que j'arrête de me débattre tout seul avec mes fautes, mes péchés, mes manquements, mon manque d'assurance. Et que je prenne cette vie de grâce. Si c'est votre cas, là où vous êtes, tout simplement, vous levez votre main, vous dites... Moi, je veux abandonner ma vie. Je veux arrêter de lutter. Ce cadeau qui m'est offert, je veux le saisir. S'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas ce matin, voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, 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 oui. Dieu est un Dieu de grâce, mes amis. Et peut-être nous qui, un jour, sommes passés à la croix et qui conjuguons ces choses au passé et qui peut-être ce matin ont été rappelés que c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours, de mourir à notre... Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Si des frères et sœurs voulaient aujourd'hui prendre cette décision de grandir en Christ, non pas pour que eux soient glorifiés, mais pour que Christ soit glorifié. Là aussi, je veux bien prier pour eux. Si quelqu'un ce matin dit, oui, je pense que Dieu n'est pas assez grand dans ma vie, oui, que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Oui. Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que toi, tu es ce Dieu miséricordieux, ce Dieu patient, ce Dieu qui chaque jour frappe à la porte de notre cœur. Et tu dis que si nous entendons ta voix et si nous ouvrons la porte, tu rentres chez nous et tu dînes avec nous. Alors je te remets tous ces frères et ces sœurs qui ont levé la main aujourd'hui. Ceux qui ont peut-être franchi pour la première fois la porte et ceux qui avaient franchi la porte il y a bien de temps et qui aujourd'hui appellent pour qu'il y ait encore plus de communion entre toi et eux et aussi entre nous et eux. Eh bien, Seigneur, bénis-les, fais-leur du bien, équipe-les, aime-les d'une manière toute particulière, parce que c'est ta parole qui sauve et c'est la croix que nous voulons glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.